Libradio, www.libradio.org. Le frisson de la radio, le murmure des mots, le soubresaut de l'idée et le séisme de l'acte. www.libradio.org.
Alors nous sommes le 6 septembre, ici sur la plaine de Plainpalais à Genève, accolé au bus santé, à notre santé, qui est un bus spécial avec une exposition itinérante et immersive concernant les enjeux de la santé. Et nous sommes en compagnie de Mona Spyridon, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci de prendre du temps pour répondre à nos questions et vous êtes la co-responsable de cette exposition.
Oui, c'est ça.
Alors, pourquoi faire cette exposition à notre santé, tout d'abord ?
Alors l'objectif en fait de ce bus, c'est d'aller à la rencontre des citoyens, et pour leur parler un peu de santé personnalisée. L'idée c'est de leur expliquer un peu qu'est-ce que la santé personnalisée, les sensibiliser à ce sujet parce que c'est un peu la médecine de demain, et puis de voir aussi un peu quels sont leurs questionnements, leurs craintes, leurs espoirs par rapport à cette thématique.
D'accord. Alors c'est toute une équipe, j'imagine, qui gérait ce projet, puisqu'on l'a dit, il est immersif mais itinérant. C'est-à-dire que là, cette semaine, il est encore jusqu'à samedi ici à Genève. Et puis, on sait que les dates, en tout cas la semaine prochaine, ce sera à Yverdon-les-Bains, du 11 au 14 septembre, précisément à la promenade Auguste Fallet, puis à Neuchâtel, Delémont, La Chaux-de-Fonds, Fribourg, Bulle, etc. On mettra tout ça évidemment au libellé de ce podcast. Alors, quelle équipe êtes-vous ? Qui êtes-vous ?
Alors, c'est un projet qui a été conçu par trois institutions, le Musée de la Main, une île Chuve, le Bioscope de l'Université de Genève et l'unité d'épidémiologie des HUG. Donc, c'est vraiment un projet qui a été conçu à trois. Et vraiment, l'idée, c'est d'essayer de parler de ce sujet au grand public, un sujet qui est quand même relativement complexe et ardu. On a essayé de faire quelque chose d'assez simple pour pouvoir en fait montrer toutes les facettes de cette santé personnalisée.
Très bien. Alors voilà, qu'est-ce que ça regroupe ? Qu'est-ce que ça contient, la notion de santé personnalisée ?
Alors, la santé personnalisée, c'est un thème assez difficile à définir, mais l'idée derrière, c'est d'essayer de voir comment est-ce que on peut optimiser un peu les soins en utilisant les particularités individuelles, biologiques, environnementales des gens. Donc l'idée, c'est une sorte de médecine un peu plus sur mesure, quoi. En gros, c'est prendre en compte les particularités pour optimiser le diagnostic, les traitements.
D'accord. On reviendra là-dessus un tout petit peu plus tard. Mais avant cela, j'aurais voulu que vous nous décriviez à peu près comment ça se passe. Parce qu'en arrivant ici devant le bus, effectivement, il y a une tente, des tables avec notamment un questionnaire et puis différents éléments qui amènent les personnes à, au préalable, s'exprimer, puis, si j'ai bien compris, effectuer le parcours dans le bus et ensuite revenir au point de départ pour faire une sorte de petit bilan.
Alors oui, donc on leur propose un petit questionnaire juste pour un peu avoir une idée des perceptions qu'ont les gens sur les questions de santé personnalisée. Et puis ensuite, donc on leur propose de faire ce parcours à l'intérieur du bus. Alors ce qu'il y a, c'est que j'aimerais quand même rendre attentif les gens parce qu'il y a quand même d'autres personnes qui sont venues. Ils ont cru qu'ils pouvaient en fait qu'on leur collectait pour de vrai un certain nombre de données et puis qu'ils avaient vraiment des résultats médicaux. C'est pas du tout le cas. Hein. Tout est complètement fictif. Donc on va faire en fait un sort de scan de la personne, mais complètement fictive. Et l'idée, c'est un peu de les mettre un peu dans cette ambiance de médecine du futur, en fait. Mmh. Si on collecte un grand nombre de données, qu'est-ce qu'on peut en faire avec? Quels sont les potentiels? Donc, on va voir aussi, on va voir des exemples, en fait, de personnes qui ont bénéficié de cette médecine personnalisée. Et puis, on va voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont concrètement les applications, hein, les applications au niveau des traitements médicamenteux, au niveau de l'alimentation, au niveau du stress. Ça, c'est des exemples qu'on touche dans le bus. Et puis ensuite, on discute aussi un peu des enjeux éthiques, hein, des enjeux par rapport au partage des données. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces données? Comment le public peut utiliser ces données? Qu'est-ce qu'ils vont en faire, etc.
C'est-à-dire que l'épidémiologie, par exemple, prend un rôle central à l'intérieur de cette collecte de données, premier volet de la question. Et quelles sont-elles ces données sur lesquelles vous insistez? Y a-t-il plus, est-ce que c'est plutôt, par exemple, voilà, une prise de tension, une glycémie, un battement cardiaque, un rythme cardiaque?
Alors, donc, on n'a pas voulu, en fait, identifier les données. Donc, on peuvent être assez vagues par rapport à ça. C'est pour, parce que l'idée dans la santé personnalisée, c'est qu'on va collecter beaucoup de données différentes. On va pas uniquement collecter des données génétiques, mais on va aussi collecter des données, enfin, toutes sortes de biomarqueurs, mais aussi des données environnementales, hein, avec les objets connectés. On a la possibilité de mesurer en permanence le nombre de pas qu'on fait, les déplacements qu'on fait, son activité cardiaque au cours de la journée, etc., etc. Donc, on n'a pas voulu en fait être précis par rapport à ça. On a voulu rester assez vague, mais on a illustré avec quelques exemples, des exemples, par exemple, par rapport au stress. Donc, quel serait l'intérêt, par exemple, de mesurer en permanence son stress, hein, si on pouvait le faire? Oui. Quel est l'intérêt par rapport à ça? Donc c'est vraiment par rapport à ça. Et puis quand on parle en fait de partage de données, on parle de partage de données générales, donc l'ensemble des données qu'on peut collecter, quoi.
Très bien. Et alors, quels sont-ils ces nouveaux outils? Vous venez de parler des objets connectés. Et que favoriserait-il? Parce qu'effectivement, dans la santé, on sait qu'il y a plusieurs volets. Le volet de prévention, le volet de traitement à proprement parler, et puis le volet qui suit le traitement pour évidemment résilier tout cela et ne pas connaître de rechute.
Mmh. Alors l'avantage des objets connectés, bon, actuellement, je crois qu'ils sont assez peu utilisés en santé, en médecine, parce qu'il y a beaucoup de gadgets qu'on peut télécharger ou obtenir. Mais qui n'ont pas vraiment de validité scientifique. Donc, faut être vraiment attentif à ça, parce qu'actuellement, il y a encore assez peu d'utilisation de ces objets connectés, mais c'est quelque chose qui va probablement se développer par la suite. L'avantage, c'est qu'en fait, on peut mesurer des choses dans un contexte naturel et réel. Je vous donne un exemple. Lorsqu'on veut mesurer sa tension, on doit aller chez le médecin dans une chambre. On a devant nous un médecin ou un infirmier qui va nous prendre notre tension. Eh ben, ça reflète pas forcément la tension qu'on a au jour le jour. Hein. Je connais même des gens qui ont une tension tout à fait normale, et puis quand ils vont se retrouvent devant leur médecin, ils ont d'un coup une tension qui est complètement différente. Donc l'intérêt, c'est vraiment de pouvoir mesurer ces paramètres-là au jour le jour, et puis que ça permet en fait d'être beaucoup plus prédictif, et puis d'avoir une information qui est beaucoup plus précise. Hein. C'est l'idée de cette santé personnalisée, c'est d'avoir quelque chose qui est plus précis, qui va pouvoir nous donner des indications plus précises par rapport soit au diagnostic, soit au traitement, soit justement au système préventif.
Mmh. Peut-on être sûr que ces données ne soient pas par la suite utilisées à mauvais escient?
Alors, il n'y a jamais de sécurité par rapport à ça. Et ça, c'est pour ça aussi qu'on veut faire cette exposition, pour un peu discuter de ces problèmes, puis rendre attentifs les gens, quelles sont les potentielles utilisations de ces données, et puis de voir en fait que voilà, pour l'instant, il n'y a pas de règles. Il faudra peut-être justement penser à mettre en place en fait des règlements par rapport à ça, parce que c'est quelque chose qui va de plus en plus prendre de plus en plus d'importance. Et il faut être sûr que lorsqu'on donne ces données, elles ne vont pas être utilisées comme on le souhaite pas.
Oui, donc ça, effectivement, il faut rester toujours attentif à cela, des comités éthiques. Enfin, il y aurait beaucoup d'outils, j'imagine, auxquels on pourrait
être. C'est un des objectifs, c'est de pouvoir faire que les gens soient plus informés pour qu'ensuite ils prennent des décisions par rapport à des votations ou à des initiatives qui ont toute connaissance de cause, quoi.
Ça, c'est un questionnement, une inquiétude que vous ressentez quand les gens vous visitent?
Alors assez peu en fait, je suis étonnée, et parmi les, bon, on a pour l'instant l'exposition a démarré, donc on n'a pas vraiment assez de recul par rapport à ça. Ce qu'on a constaté, c'est qu'on a en fait des petits ateliers aussi qu'on propose en dehors du bus, et ces ateliers par exemple touchent aussi au partage de données. On fait ça aussi avec les classes, donc on a aussi des ateliers pour les classes. Et j'étais étonnée de voir que les jeunes, en fait, ils sont assez facilement à donner leurs données sans vraiment trop se poser la question de comment elles vont être utilisées. Donc, ils sont assez peu...
Assez en confiance, ouais. Bon, c'est très bien. Hein. Peut-on dire que cela fait partie de cette notion venue, il me semble, un petit peu de France et qui maintenant prend son envol également en Suisse, de patient partenaire, où on implique de plus en plus les patients, les personnes... malade.
Oui, bah alors tout à fait. Il y a le fait que tout simplement, la santé personnalisée implique qu'il faut partager ces données. Alors il y a une sorte de paradoxe au fait que une santé personnalisée, c'est une santé qui va plus vers l'individu, donc vers l'individualité, mais en même temps, pour arriver à ça, il faut donner et partager ces données, donc regrouper un grand set de données et traiter ce grand set de données, ce qu'on appelle les big data. Et donc il est nécessaire en fait de pouvoir offrir en fait ces données pour pouvoir ensuite bénéficier de cette personnalisation, de cette médecine de précision.
Ouais, le site internet, on va immédiatement le donner, www.santéperso.ch. Là, on trouve le parcours, effectivement, toutes les animations qui ont lieu autour, parce que c'est effectivement l'idée, c'est d'être mobile, itinérant, interactif et immersif.
Tout à fait, oui. Et comme je voulais aussi préciser que non seulement on a cette exposition, mais on marche de ça, on organise aussi de temps en temps des ateliers pour les familles dans certaines villes où on va aller plus en profondeur sur un sujet et on aura un expert qui sera là donc pour répondre aux questions. Donc si jamais tout est marqué sur le site.
Très bien, très bien. Des médecins sont-ils déjà venus? Le savez-vous?
Ah, bien sûr, oui.
Très bien. Et puis, alors, quelles remarques? Est-ce qu'on vous avez déjà pu collecter ou en tout cas avoir quelques retours de professionnels de la santé?
Alors, pour l'instant, le retour était très positif. Donc, je pense que pour eux, c'est aussi très important d'avoir un moyen de communiquer ces choses-là, parce que souvent, ce sont des notions qui restent dans leur entourage, dans leur bulle. Et là, c'est vraiment, l'idée de pouvoir partager ça avec les patients, puis aussi avec les citoyens, et de pouvoir aussi récolter, on va essayer de trouver un moyen aussi de récolter les avis des gens, donc les craintes, les espoirs de ces gens, pour pouvoir ensuite les fournir ensuite aux médecins, puis voir en fait qu'ils soient plus au courant en fait de quelles sont les réelles craintes et espoirs de ces gens.
Et alors, toutes ces données collectées ici seront-elles peut-être disponibles justement pour des professionnels, mais également pour le public?
Oui, alors on n'a pas encore décidé comment, mais c'est clair qu'on va essayer en tout cas de collecter un certain nombre d'avis et ce sera tout en fait indiqué sur le site web Santé Perso. Et puis après, bien entendu, il y a une étude de l'Université de Genève par rapport aux perceptions des gens sur la santé personnalisée, et puis les résultats de cette étude seront aussi accessible.
Très bien. Est-ce que le trajet, votre parcours, est-il aléatoire ou est-ce que à dessein vous vous rendez dans certaines localités?
Alors, on a essayé de couvrir un peu de manière uniforme la Suisse romande. On a essayé aussi de ne pas toujours aller dans les grandes villes et de faire une sorte de compromis entre de temps en temps une étape dans une grande ville et de temps en temps une étape dans une ville un peu moins importante comme par exemple Payerne ou Bulle. Donc pour essayer de sortir de ces centres urbains où les gens ont peut-être plus facilement accès à ces informations, où il y a plus facilement des conférences sur ces sujets et permettre en fait de toucher un public assez varié.
Très bien. Connaissez-vous des projets pairs avec lesquels vous collaborez ou vous collaborerez, des projets similaires à ce type d'exposition?
Alors, ce que je n'ai pas précisé, c'est que ce projet est soutenu par la Fondation Lennart, qui en fait a lancé une initiative il y a 2 ans, qui s'appelle Santé personnalisée et société, où elle a en fait financé un certain nombre de projets autour de ce sujet-là. Et notre exposition fait partie de ces projets-là, mais il y a d'autres projets, notamment toute une série de forums, toute une série de conférences et de débats autour de ce sujet. Donc on essaie d'intégrer en fait ces autres débats pour pouvoir créer des synergies, parce que c'est assez important non seulement de présenter ces choses au public, mais aussi après de débattre avec eux, d'aller plus en profondeur sur ces questions.
Peut-on dire dès lors que l'on a ici une des briques qui façonne la médecine du futur, la médecine de demain?
Exactement, c'est ça. Et en fait, donc, si vous allez sur le site, vous allez voir tous les projets qui sont financés par cette initiative. Et donc, vous pourrez avoir des informations par rapport à ces autres projets. Il y a des projets qui concernent, par exemple, le consentement. Est-ce qu'on veut faire un consentement qui est peut-être pas fixé une fois pour toutes, mais qui est peut-être qui est plus variable, qui va changer au cours du temps, parce qu'on peut imaginer que les gens sont prêts à partager leurs données à un moment donné, mais après ils peuvent changer d'avis. Tout d'un coup ils n'ont plus envie, ou alors ils ont envie mais pour certains types de données. Et c'est important de prendre en compte ce genre de choses. Et l'idée c'est de construire avec les citoyens cette médecine du futur et de voir un peu quelles sont leurs craintes, quels sont leurs espoirs, et puis de prendre en compte ça dans la construction de cette médecine.
Très bien, très bien. Nous arrivons doucement au terme de cet entretien. Encore 2 petites questions, si je peux me permettre.
Oui, bien sûr.
Alors, Mena Spiridon, selon vous, la médecine du futur commencera-t-elle? Vivra-t-on plus vieux? Vivra-t-on mieux? Et la question finale qui viendra juste après, c'est et la mort alors? Parce que dans la santé, eh bien, d'une manière un petit peu contradictoire, il faut tout de même parler de la mort, ou en tout cas de cet accompagnement à la mort et de sa qualité.
Alors bon, je dirais d'abord que la médecine personnalisée, c'est pas une médecine qui est très différente de ce qu'il y a actuellement. C'est juste une médecine qui va être plus précise dans le diagnostic et dans le traitement. Donc il n'y a pas de révolution en tant que telle dans la manière de traiter les gens. C'est juste qu'on va, au lieu de donner un médicament qui est efficace qu'à un tiers des gens, on va pouvoir donner un médicament qui sera efficace peut-être à 80% des gens. Donc c'est juste une question d'améliorer en fait la qualité des soins. Donc c'est clair que le futur de la médecine, c'est toujours de réduire un peu les risques de maladie, de toujours améliorer les traitements. Donc c'est le but, quoi. C'est un peu ce qu'on recherche, parce que finalement il faut voir que l'état de santé, c'est une grande inégalité hein, dans notre vie. On ne naît pas tous avec la même santé, malheureusement. Et donc la médecine, son objectif principal, c'est d'essayer de pallier un peu cette injustice et cette inégalité. Donc pour ça, la médecine de demain va être simplement plus performante, et donc on peut s'en réjouir.
Bah absolument. Et la mort alors, parce qu'effectivement on parle de soins palliatifs qui pourraient être un oxymore d'une certaine manière, de termes contradictoires. Qu'en est-il du rapport à la mort en médecine, en santé publique?
Alors ça, je dois dire, c'est une question, je ne suis pas experte pour...
une opinion,
Je ne sais pas comment vont évoluer les choses. C'est-à-dire que je n'ai pas tellement d'informations par rapport à l'évolution de ces soins palliatifs, mais je peux imaginer que ça peut être la même chose que dans tout le reste. C'est-à-dire qu'on va pouvoir peut-être proposer des soins qui soient plus adaptés au profil des gens, aux volontés des gens, au bien-être des gens. Quoi.
D'accord. Faisons un petit bilan de tout ce que l'on a dit. Peut-on dire tout de même qu'il est important, effectivement, de rappeler qu'il y a plusieurs axes sur lesquels il faut travailler pour s'assurer une bonne santé et durable? La prévention, comme on l'a dit, le diagnostic, le soin et l'accompagnement après ces soins-là. Peut-on dire que le médecin de famille reste une figure centrale, tutélaire, dans la bonne conduite de sa santé?
Bien sûr, en fait, c'est simplement le médecin de famille aura simplement à disposition un plus large set de données sur lequel il pourra proposer des soins qui soient plus adaptés. Donc, il n'y a aucun changement par rapport au rôle du médecin de famille. À mon avis, il sera même peut-être plus important, puisqu'en fait, il va pouvoir justement devoir traiter toute une série de données qui sont très variables et qui lui permettront de proposer des diagnostics qui sont plus fiables.
Quoi. Très bien, très bien. Mona Spiridon, je vous remercie beaucoup de votre disponibilité. On va vous souhaiter bonne continuation et courage pour toute la suite des opérations, pour tout votre périple au travers de la Suisse romande. On le rappelle, le site internet, c'est www.santéperso.ch. Et arrivé au terme de l'entretien, je vais vous poser une question à laquelle vous ne répondrez ou pas. C'est vraiment selon votre humeur et votre envie. On entend parler du transhumanisme, voilà, de cette manière de faire qui tendrait à, comment dire, utiliser une technologie, qu'elle aille des nanotechnologies jusqu'à autre chose, un outillage qui nous permettrait d'aller au-devant d'une vie encore plus longue. Quelle est votre position par rapport à ça, si vous en avez une?
C'est difficile de se positionner, je trouve, parce que c'est clair que les nouvelles technologies vont bénéficier et bénéficient déjà à la médecine. Et ça voudrait dire quoi, en fait? Ça veut dire que est-ce qu'on voudrait, d'un autre côté, elles apportent énormément de choses, comme je disais, en fait, ça permet de pallier à une certaine injustice. Bien entendu, ça amène à des dérives. Ça peut amener à des dérives. Mais est-ce qu'on devrait empêcher ce progrès qui permettrait peut-être à des aveugles de retrouver la vue, qui permettrait à des gens handicapés de pouvoir se déplacer de manière indépendante par le simple risque que ça pourrait être utilisé de manière excessive par des gens qui voudraient en fait avoir devenir des surhumains, quoi. Je pense que c'est comme tous les progrès, il faut des garde-fous, mais il ne faut pas empêcher en fait l'utilisation qui est bénéfique pour les gens, mais peut-être mettre des garde-fous lorsque ça peut conduire à des dérives.
Alors on confirme, science sans conscience n'est que ruine de l'âme.
Je pense que c'est à la société de décider comment on utilise ce genre de choses.
Et vous contribuez par cet itinéraire-là à éclairer justement ces consciences et à ce que les personnes puissent démocratiquement s'exprimer par rapport à ça et prendre des décisions en connaissance, en toute connaissance de
cause. Voilà, c'est ça, mais je voudrais aussi dire que c'est quelque chose qui va dans les deux sens. C'est pas uniquement à nous de leur expliquer les choses, c'est aussi à eux de nous faire part en fait de leurs opinions, de leurs avis, parce que ça permet en fait de prendre en compte ensuite ce genre de choses pour les médecins et pour les politiques, pour pouvoir proposer des choses qui soient vraiment adaptées aux volontés populaires.
Mmh. On en arrive à la notion de consentement éclairé, dont effectivement tous les patients pourraient être les auteurs et les autrices.
Oui,
en tout cas,
ça.
C'est ce que l'on souhaite.
Exactement, oui.
Très bien. Eh bien, Mona Spyridon, merci beaucoup. Mmh. Le bus à notre santé, l'exposition à notre santé, une exposition pour explorer la médecine de demain, une exposition, comme on l'a dit, itinérante et immersive. Le bus, eh bien, sillonne toute la Suisse romande pendant 3 mois. L'exposition est cette entrée libre. Elle est accompagnée, effectivement, de questionnaires, de petites informations supplémentaires et d'ateliers. On peut s'y inscrire et notamment les écoles sont les bienvenues. Pour faire toutes ces choses-là, pour que les visites et les visiteurs puissent s'informer, eh bien, c'est le site internet.
Oui, tout à fait. Toutes les informations sont sur le site internet. Oui.
www.santéperso.ch. Merci beaucoup et bonne continuation.
Merci à vous.